J'ai essayé de vous montrer les dernières fois pourquoi la métaphysique telle que en parle Heidegger était de fait une idéologie, comment il l'a rejetée parce que c'était l'impossibilité de pouvoir rejoindre directement l'être. Je crois que là, il a raison. Si on essaie de comprendre un tout petit peu comment, dans la philosophie occidentale, progressivement, la philosophie première s'est désagrégée. Et spécialement, comment cette philosophie première utilisée par les théologiens, par un procédé de laïcisation assez particulier, mais quand même un procédé de laïcisation par rapport à la foi, la manière dont Suarez veut redécouvrir les disputes métaphysiques, c'est-à-dire le contenu métaphysique de la pensée théologique de saint Thomas. Il est bien évident que dans la pensée théologique de saint Thomas, il y a un contenu métaphysique que saint Thomas emprunte à Aristote et au néoplatonisme. Il y a ce contenu, mais on ne peut pas le redécouvrir à partir de saint Thomas sans revenir à la source. Et je crois ceci très important. Il faut essayer d'en faire l'expérience soi-même, parce que c'est en lisant, par exemple, la question du bien dans saint Thomas, des bono, c'est une des questions les plus, ou bien le point de vue, le problème du mal, où on voit combien le point de vue philosophique et métaphysique est présent, et comment, de fait, la métaphysique d'Aristote et la métaphysique des néoplatoniciens est assumée par la foi d'une manière telle que c'est l'aspect critique, l'aspect des rationes, qui devient comme l'élément qui va pouvoir s'intégrer à la foi et arriver à faire cette unité propre de la pensée théologique. Et comment on ne peut plus, dans cette pensée théologique, redécouvrir, à partir de la pensée théologique, redécouvrir cette métaphysique. Il faut donc essayer, avant que la métaphysique devienne une idéologie, redécouvrir qu'est-ce que se représente une véritable philosophie première dans notre monde d'aujourd'hui. C'est là toute la difficulté. Vous voyez que les deux grandes difficultés, c'est d'une part le progrès des sciences. C'est très vrai que le progrès des sciences peut devenir comme un obstacle à la philosophie. Mais au fond, la science, si elle restait uniquement la science, ne serait jamais un obstacle. C'est la science qui s'allie aux idéologies qui devient un obstacle. Alors il faudrait faire le même procédé ici, de voir comment la science qui s'allie aux idéologies devient le positivisme, et comment la science qui s'allie aux idéologies peut alors apparaître comme un aspect critique qui remplace la philosophie. Je souligne simplement le problème parce que c'est intéressant à voir. Vous voyez, Descartes, en voulant libérer la philosophie du joug du théologien, donc du joug de la foi, va s'appuyer sur les mathématiques. Comment Kant va lui aussi s'appuyer sur la science physique moderne. Autrement dit, on essaie de trouver dans les sciences un appui comme si la philosophie n'avait pas possibilité d'être elle-même. En théologie, elle n'est plus elle-même. Mais est-ce que la philosophie peut avoir un droit de cité unique? Je me souviens, c'était il n'y a pas très longtemps, je ne crois pas que ce sont des secrets à livrer, cela. Il y avait un petit comité entre professeurs et des étudiants pour essayer de voir comment on pouvait reprendre le point de vue de la philosophie. Il y avait deux tendances très nettes. La tendance de ceux qui disaient la philosophie ne peut être intéressante qu'annexée à telle ou telle autre science. Autrement dit, la philosophie n'a plus en elle-même un droit de cité. Elle n'est plus une connaissance qui peut exister par elle-même. Elle est une science qui ne peut exister que liée ou à la théologie, ou aux mathématiques, ou à la psychologie, ou ainsi de suite, à la sociologie. Alors, on n'a plus à ce moment-là une vraie philosophie, on n'a qu'une métapsychologie, une métasociologie. Et qu'est-ce que c'est qu'exactement ? C'est ça le point de vue intéressant à saisir. Que devient à ce moment-là la pensée philosophique ? Là, il y a un problème critique qui vaut la peine d'être étudié. Et qui est très important à être étudié, de bien comprendre comment une philosophie, ne peut pas être elle-même philosophique si elle s'appuie sur autre chose. Si, du moins, on part de cette définition très générale de la philosophie, et qui est tout simplement une connaissance qui veut être exhaustive. Ça ne veut pas dire qu'elle veut tout dire, mais elle veut aller le plus loin possible dans la recherche de la réalité, et elle veut à tout prix ne jamais abandonner dans son regard l'homme. Je crois que ce sont les deux critères que nous devons prendre, parce que ça me semble être les deux critères qu'on retrouve tout le temps et que tout le monde peut accepter. Et Heidegger accepte ces critères-là. Il accepte que, de fait, la philosophie doit être fondamentale. C'est pour ça qu'il dit ontologie fondamentale. Et donc, elle doit toucher ce qu'il y a de plus radical. Et en même temps, elle doit toujours regarder l'homme sans être uniquement une anthropologie. En étant une philosophie qui, de fait, va regarder l'homme, mais va toujours dépasser l'homme. Et donc n'est pas uniquement une anthropologie. C'est là, je crois, les deux facteurs qui nous permettent de comprendre comment nous pouvons aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, où on voit combien l'esprit risque de sombrer, parce que ce serait très intéressant à voir comment les idéologies ramènent l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence, à la raison. Et comment, progressivement, on ramène la raison à l'exercice de la raison. Et par le fait même, on ne peut plus distinguer l'objet propre de la connaissance humaine de la manière dont elle se sert des images. Et c'est ce qui fait comprendre, je crois, la position de Clavel, qui dit qu'en définitive, on ne peut plus affirmer que la seule connaissance du sensible, la seule connaissance de l'image, la seule connaissance de la représentation. Vous voyez, il y a deux réductions successives dans le progrès des idéologies. C'est ce qu'on a dit d'une façon habituelle en disant, après avoir dit que Dieu n'existait pas, et donc tuer Dieu, on a tué l'homme. C'est ça que, de fait, on réalise dans cette pensée, dans ce développement de l'idéologie. Là, il y a un problème aussi qui est très intéressant à regarder. Comment cette attitude d'une philosophie réflexive aboutit à ne plus regarder que l'idéologie qui ramène l'intelligence à la raison et qui progressivement ramène la raison uniquement à l'exercice de la raison. Or, je ne peux pas penser sans utiliser des images. Chacun d'entre nous. Ce n'est pas propre à moi. C'est propre à vous. Vous ne pouvez pas penser sans utiliser des images. Dans toute votre pensée, il y a l'utilisation des images. Donc une philosophie qui ne regarde plus que l'exercice de l'intelligence. Dans une perspective, si vous voulez, toujours de réflexion, où on ne regarde plus que l'exercice de la raison. On ne saisit plus que l'image au bout d'un certain temps. Et alors on ramène toute la philosophie à l'image. Et alors il y a comme une espèce de mort de l'esprit, parce qu'on ne voit plus que l'image. Ceci c'est pour vous montrer l'importance qu'il y a pour nous de revenir à une philosophie qui essaie de découvrir son autonomie. Pas comme mort, de découvrir une philosophie qui découvre son autonomie. Alors, je peux m'aider de ceux qui, avant moi, avaient découvert une philosophie qui avait son autonomie. Je prends ici trois grands noms. Socrate, Platon, Aristote. Et là, je me mets aussi dans une certaine perspective qui est intéressante à voir, c'est que, de fait, constamment, il y a cette référence. Mais faisons attention, je ne vais pas dire la philosophie d'aujourd'hui ne peut être que celle de Socrate, de Platon et d'Aristote. Je prends Socrate, Platon et Aristote pour une raison très simple, c'est que Socrate se trouve dans une situation assez analogue à la nôtre. Regardez la discussion, et ça c'est bon à relire, dans le Gorgias. Quand Socrate est en face des sophistes, qui regarde que la philosophie est uniquement une rhétorique, bien parlée, persuadée. Très facilement, aujourd'hui, la philosophie sera une philosophie du langage. Oh, on apportera un aspect d'information infiniment plus grand que les sophistes, mais on restera au niveau du langage. La rhétorique reste au niveau du langage. Alors, c'est intéressant de voir la position d'un Socrate face à ses sophistes, pour montrer qu'on ne peut pas s'arrêter au langage, qu'on ne peut pas s'arrêter à la rhétorique. Le langage et la rhétorique, c'est toujours quelque chose de second. Donc, l'attitude de Socrate est très importante pour nous. Je crois que si on est vraiment philosophe, on est toujours un peu apparenté à Socrate. Parce que Socrate reprend le problème dans ce qu'il a de plus radical. C'est intéressant de regarder Platon parce que Heidegger nous dit que toute la philosophie occidentale est une paraphrase de Platon, donc Heidegger lui-même, c'est une paraphrase de Platon, et nous restons dans une perspective qui est une paraphrase de Platon. C'est intéressant de comprendre. Notre idéologie moderne est l'idéologie de Platon. C'est très intéressant de faire le parallèle entre les deux. Et de voir que là, on est en présence de deux idéologies totalement différentes. Si on peut appeler Platon un idéologue, j'en suis pas sûr. Je n'aimerais pas tellement d'appeler Platon un idéologue. Parce que je crois que c'est tout à fait autre chose. Mais il y a quelque chose de semblable en ce sens que c'est quand même une attitude de réflexion sur la vie de l'intelligence dans ce qu'elle a au plus intime d'elle-même. Et donc, c'est l'intelligence qui doit découvrir elle-même son propre cheminement philosophique. Et puis, la position aristotélicienne en troisième lieu. Nous n'allons pas faire une philosophie aristotélicienne, une philosophie platonicienne et une philosophie socratique en faisant, je fais le petit cocktail des trois. Et donc ce sera plus parfait que tout. Ce petit cocktail des trois a déjà été fait. C'est Plotin. Plotin a fait, de fait, une philosophie où il y a des éléments d'Aristote, des éléments de Platon, des éléments de Socrate. Donc, et je ne prends pas Plotin à cause de ça, parce que Plotin, c'est déjà un second moment dans la philosophie grecque. Tandis que je crois que je peux considérer que les dernières sources de la philosophie grecque, les dernières sources, c'est Socrate, Platon, Aristote. Ce sont les trois qui ont le courage de regarder le problème directement. Vous voyez, les stoïciens sont déjà dépendants, tandis qu'eux sont là les trois sources. Alors, je reviens à ces trois sources pour essayer de comprendre comment me servant d'eux, mais pas du tout en restant en tutelle à eux, j'essaie de découvrir ce que peut être le cheminement philosophique. Toujours avec cette intention que la pensée philosophique est une pensée qui reste fixée sur l'homme dans toutes ses dimensions. Et que la pensée philosophique doit essayer de creuser toujours ce qu'il y a de plus fondamental. Vous voyez bien comment se pose le problème, si vous êtes assez net là-dessus. Plutôt que de partir sans m'aider des autres, je dois m'aider des autres. Il y a toujours deux sources à la philosophie. Ce que je découvre par moi-même et ce que les autres ont découvert avant moi. Avoir la prétention de tout découvrir par soi-même, ce n'est pas très honnête par rapport à l'humanité. Et donc, je crois que c'est plus une philosophie qui regarde l'homme. Parce que ce serait se considérer comme le seul génie de l'humanité. C'est un peu gênant. Mais il faut être Jean-Jacques Rousseau pour ça. Il n'y a que Jean-Jacques Rousseau qui l'a dit, du reste. Ça, c'est, il n'y a que Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau a dit, si vous voulez savoir ce que c'est que l'homme, regardez-moi. Alors, là, vous verrez ce que c'est que l'homme. Alors, je pourrais dire, si vous voulez savoir ce que c'est que la philosophie, regardez-moi. Non, non, pas du tout. On a philosophé avant. Et on n'a pas si mal philosophé avant. On a philosophé d'une façon très intelligente. C'est vrai. Quand je relis Platon, je vois que c'est quand même très intelligent. Beaucoup plus intelligent que des tas de choses que je lis aujourd'hui qui sont intéressantes mais qui n'ont pas la même force philosophique. Alors, je prends ces trois, je réfléchis un instant pour essayer de découvrir comment ces trois, qui sont les trois dernières sources, vont m'aider à me donner, si vous voulez, le petit sentier philosophique que je devrais tracer moi-même, hein. Que je dois tracer moi-même, je dois forcément, si on est philosophe, on se sert de Socrate, c'est toujours très bon de revenir à Socrate, on se sert de Platon, c'est merveilleux de regarder Platon, on fait très beaux rêves, et donc c'est merveilleux, il y a un halo philosophique autour de Platon qui est merveilleux, et je crois qu'il nous empêche d'être trop secs. Parce qu'il y a tout un aspect poétique chez Platon qu'on doit utiliser. Et puis, il y a la rigueur d'Aristote. Je me sers ici de ce que dit Hegel, c'est quand même intéressant, c'est quand même un grand génie et qui m'a dit des choses intelligentes. Hegel dit « Seul Aristote forme ». C'est quand même intéressant d'entendre Hegel dire ça. Platon ne forme pas, Platon éveille. C'est bien d'éveiller. Et Platon éveille à des quantités de problèmes philosophiques. Parce que Platon pose dialectiquement certains problèmes philosophiques. Et c'est bon de voir ces problèmes philosophiques. Ce serait très intéressant de relire tout Platon en voyant tous les problèmes qu'il met en lumière. Et que souvent il ne résout pas. Mais il met en lumière tous ces problèmes-là. Pratiquement il a touché à tout. De façon étonnante. Donc, il met en éveil. Et Aristote, je crois, le seul, nous donne une précision philosophique qui peut aller très loin. Mais qu'il faut repenser. D'abord, c'est pas commode de comprendre Aristote. C'est très difficile. Il faut tous faire ce petit effort de se mettre à lire Aristote et puis de voir qu'on comprend rien du tout. C'est vrai, c'est bon de faire ça. C'est bon. Lisez ce que vous aimez mieux, le De Anima ou la physique d'Aristote ou la métaphysique d'Aristote. L'éthique, vous comprendrez. Mais si vous prenez sa philosophie spéculative, vous verrez que vous ne comprenez rien du tout. Vous direz, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a quelques petites phrases qu'on comprend, mais c'est difficile, c'est rude. Alors, il faut essayer de comprendre comment ces trois doivent nous aider à redécouvrir comme une piste philosophique, un sentier philosophique, méthodos, comme dirait Aristote, méthodos, une odos, c'est-à-dire une voix. Et méthodos, c'est la voix qui accompagne la pensée. Ce n'est pas une méthode, comme on l'entend aujourd'hui, mais c'est la voix qui accompagne la pensée, méthodos, ce qui est avec la pensée. Et ce qui fait qu'à chaque instant, je puis préciser, je puis justifier ma démarche. Alors, si je regarde ces trois, je ne vais pas m'arrêter trop longtemps, puisque on les voit en histoire de la philosophie grecque. Socrate, c'est le philosophe de l'interrogation. C'est ça qui est merveilleux. C'est le philosophe de l'interrogation. Face à ceux qui savent, c'est intéressant, face à ceux qui savent. Les sophistes savent. Et c'est pour ça qu'ils sont ennuyeux. Eh bien, Socrate ironise. Il déblaye le terrain. Vous voyez, c'est le bulldozer de la philosophie, Socrate. Il est puissant. Quand vous êtes en face de constructions sophistiques, il prend ça par le bas et puis il fait tout sauter. Et il montre qu'il n'y a rien qui tient. Et alors, ceux qui ont construit l'édifice sont obligés de courir par derrière. Mais dis un peu. Vous voyez, donc, il est celui qui pose les interrogations. Et puis, il est le philosophe qui pose les interrogations parce qu'il est inspiré. Il y a une philosophie de l'inspiration chez Socrate. Il est inspiré, Socrate. Donc, on peut mettre inspiration de Socrate, l'inspiration de Delphes. Connais-toi toi-même. Le mot d'ordre. Connais-toi toi-même. Mais pour se connaître, il faut déblayer le terrain. Alors, connais-toi toi-même, l'inspiration. C'est donc une réflexion, il faut bien voir, une réflexion sur son action. Et je crois qu'en effet, c'est une réflexion sur son action, réflexion sur l'âme, dans la mesure où on peut connaître l'âme. Il y a une réflexion, c'est donc une philosophie de l'intériorité. Ça, je crois qu'on ne peut pas dire que Socrate n'est pas une philosophie de l'intériorité. C'est là où je ne comprends plus très bien Clavel. Parce qu'il dit que la philosophie ne peut pas être une philosophie de l'intériorité. On ne voit pas très bien. Quand on est en face de Socrate, c'est une philosophie de l'intériorité. Se connaître soi-même. Ce n'est pas commode de se connaître soi-même. Se connaître soi-même d'une manière intelligente qui fait qu'on connaît les autres. Platon. Philosophie de l'inspiration aussi. Ça, je crois. On ne peut pas dire que Platon n'est pas une philosophie de l'inspiration. Philosophie de l'intériorité, je crois aussi. Une intériorité même qui va, d'une certaine manière, plus loin que Socrate sous un aspect et moins loin que Socrate sous un autre. Alors, il y a une bifurcation dans la philosophie de l'intériorité. Le passage de Socrate à Platon, quand je regarde Platon au terme de sa vie, c'est la philosophie des formes. Des formes pures. Parce que l'être, c'est cette forme pure. Et au fond, c'est la philosophie qui aboutit à une théologie. On voit beaucoup moins l'aspect de la théologie, c'est Socrate. Il est respectueux, c'est la philosophie religieuse. Mais ce n'est pas la théologie au sens absolu chez Socrate. Tandis que chez Platon, il y a la soif de découvrir le bien en soi, au-dessus de toutes les formes. Le dépassement de la forme dans le bien en soi, le dépassement de la forme dans l'un en soi. Donc, il y a vraiment une théologie chez Platon, à partir de cette inspiration. Et puis alors, Aristote, qui se dit d'une certaine manière plus propre, plus proche de Socrate que Platon n'est proche de Socrate, et ça c'est très intéressant, ça prouve qu'il ne renie rien du tout aux interrogations socratiques. et qu'il reste le philosophe de l'interrogation comme Socrate, plus que Platon. Le premier Platon, c'est le philosophe des interrogations. Mais très vite, Platon aboutira à la dialectique. Et la dialectique va supprimer les interrogations. C'est pour ça que je dis qu'il y a un moment tragique dans la pensée de Platon qui serait intéressant à bien voir. Le moment où pratiquement il quitte Socrate et il tombe dans une philosophie de la dialectique. Tandis qu'Aristote va en face de cette dialectique, il va très nettement la rejeter. Il a des paroles dures sur la participation qu'il faut comprendre face à Platon, parce qu'Aristote reconnaît la participation, mais il ne reconnaît pas la participation comme étant au cœur de la philosophie. Il reconnaît la participation pour autre chose. Et alors Aristote va être le philosophe de l'expérience. Ça, il le dit textuellement. Toute sa philosophie va reposer sur l'expérience et non plus sur l'inspiration. Ça ne veut pas dire qu'il rejette l'inspiration, ça ne veut pas dire qu'il rejette l'expérience interne, mais il veut trouver une expérience qui implique les sensations, qui se sert du toucher. L'intelligence unie au toucher va nous permettre de comprendre ce que c'est que l'expérience. C'est le philosophe qui veut revenir à la réalité, j'allais dire la réalité brute, comme dirait Merleau-Ponty, la réalité sauvage. La réalité qui nous est donnée directement. La réalité telle que je peux l'expérimenter comme un donné. La réalité que je n'ai pas faite, que je n'ai pas réalisée. C'est cette réalité existante vers laquelle il revient. Vous voyez, cet effort, c'est quand même très impressionnant de voir cela au plan philosophique. De voir comment... De fait, juste avant Socrate, la philosophie se perd dans l'aspect sophistique. Elle se perd dans la rhétorique. Toujours un danger. Le philosophe se perd dans le logos rhétorique, dans le discours rhétorique. Et qu'il ne voit plus que cela. Parce que le discours rhétorique a l'avantage de pouvoir persuader. Et alors à ce point de vue-là, c'est le point de vue politique qui l'emporte et le point de vue de l'efficacité politique. Les sophistes sont des grands bons hommes dans l'ordre de l'efficacité. Ce ne sont pas des grands bons hommes dans l'ordre de la connaissance, mais dans l'ordre de l'efficacité. Alors face à cela, on voit comment la philosophie, chez les trois, qu'on ne doit jamais séparer, Socrate, Platon, Aristote. Plus on étudie Aristote, plus on voit sa dépendance de Platon et plus on voit son retour à Socrate. Et plus on voit son retour à la réalité. C'est ça qui est extraordinaire. Le philosophe peut s'appuyer sur la réalité qu'il expérimente et il ne peut s'appuyer que sur la réalité qu'il expérimente. C'est ça, je crois, la conviction profonde d'Aristote. Le philosophe ne peut pas s'appuyer sur ses idées. Il ne peut pas s'appuyer sur ses idées. Il ne peut pas s'appuyer sur les pâtés de l'âme, comme il dit. Parce qu'il ne parle pas d'idées, mais il parle de ce que l'âme, quand elle connaît, l'âme pâtit. L'âme est influencée. L'âme est marquée par la réalité. Alors, parce que l'âme est marquée par la réalité, le philosophe ne peut pas s'appuyer sur ses marques qui sont dans l'âme et qui proviennent de la réalité. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de second. Le philosophe ne peut pas s'appuyer sur la parole parce que c'est quelque chose de second. Vous voyez ? Ce que dit Aristote, il le dit explicitement dans son livre du De Anima et dans son Peri Herméneia, donc le traité de l'interprétation, Aristote dit textuellement que les pâtés, pâtir, le fait de pâtir. Pour lui, toute connaissance est un pâtir. Toute connaissance est un pâtir. Donc, toute connaissance, c'est le sujet connaissant Le sujet connaissant est d'abord celui qui pâtit, parce que c'est celui qui reçoit l'influence d'une réalité existante, première. Donc, si le sujet existant est celui qui pâtit, il est toujours second. Il n'est pas premier. Et dans la mesure où il pâtit, il l'exprime par son logos, c'est-à-dire par sa parole. Si je prends logos comme parole. Donc il l'exprime par son discours, par la parole. Donc la parole est en troisième position. Ça c'est dit explicitement. Donc je ne peux pas là, je n'interprète pas, j'essaie de comprendre ce que dit Aristote. Et c'est très important de comprendre cela, parce que c'est la clé. C'est la clé si on veut comprendre pourquoi Aristote reprend l'expérience, c'est parce qu'il a réfléchi sur le fait que les pâtés de l'âme, donc le fait que l'âme connaît, c'est toujours relatif à autre chose. Et que j'exprime par le logos ce pâtir de l'âme, par la parole. Donc la parole, troisième position, les idées, deuxième position, la première position, la réalité existante. Je ne peux m'appuyer, je ne peux fonder ma philosophie que sur la réalité existante. Cette réalité existante que je peux atteindre par mon intelligence liée aux sensations. Et c'est l'intelligence liée aux sensations qui est l'expérience. C'est pour ça que sa philosophie est une philosophie de l'expérience. Et c'est pour ça qu'il revient tout le temps à l'expérience. Parce que je ne peux pas m'appuyer à autre chose. Vous comprenez que dans cette position-là, on comprend que la philosophie ne peut pas non plus s'appuyer vis-à-vis de l'opinion des autres philosophes. L'opinion des autres philosophes, et donc l'opinion d'Aristote lui-même pour moi, l'opinion des autres philosophes, c'est toujours quelque chose qui est second. Puisque c'est leur dire, c'est leur parole. Je n'ai pas contact direct avec leur expérience de la réalité. Donc ça m'intéresse énormément de regarder les opinions des autres. Et Aristote ne se ferme pas du tout aux opinions des autres, puisqu'il a fait toutes les topiques, tout son livre des topiques, qui est le livre qui nous montre comment nous entrons dans la pensée des autres et que nous pouvons l'utiliser. Le livre des topiques, qui est un livre de logique, le livre des topiques nous montre comment nous devons utiliser l'opinion des autres. Donc pour Aristote, il y a deux sources à la philosophie. L'opinion des philosophes et l'expérience. Mais ces deux sources impliquent un ordre. C'est que l'expérience est première et fondamentale, et l'opinion des autres est toujours seconde. Mais comme l'opinion des autres est quelque chose de plus élaboré, c'est vrai, puisqu'ils ont pensé avant moi, l'opinion des autres est quelque chose de plus élaboré, je peux souvent, il vaut mieux d'abord commencer par l'opinion des autres. Ça me met en éveil, ça m'aide à comprendre. Et alors, commençant par les opinions des autres, je vois que la plupart du temps, les philosophes ne sont pas tous du même avis. Parce que ce sont quand même des gens qui ont une certaine autonomie. Alors, il n'y a pas qu'une seule école philosophique. Il y a un pluralisme en philosophie. Et alors, parce que les opinions sont diverses, quand je vois des opinions qui sont en contradiction, ça m'éveille. Et je me pose, mais où est la vérité ? Qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans ? Et donc, regarder les opinions des autres, ça fait partie de cette manière de m'éveiller au plan philosophique. Si je ne regarde qu'un seul philosophe, je risque de m'endormir et de répéter tout le temps ce qu'il dit. Et donc, je suis mauvais philosophe. Il faut que je regarde l'opinion des autres pour m'éveiller à la philosophie et comprendre la complexité du problème. Oui, c'est là où je crois qu'il y a quelque chose de très très juste dans ce qu'il dit là, indépendamment de si vous voulez, du temps. La seule différence, c'est que pour nous, l'opinion des philosophes, elle s'est multipliée comparativement à Aristote. Pour Aristote, il n'y en a pas beaucoup avant, ça va. alors on fait vite le tour. Tandis que pour nous, c'est beaucoup plus complexe. Mais alors, il faut justement arriver à discerner comme les grandes orientations des philosophes et comprendre ces quelques grandes orientations pour ne pas trop perdre de temps. Mais c'est nécessaire de regarder les opinions des autres. Et quand je regarde ces opinions des autres, je vois que ces opinions sont diverses, et donc je veux découvrir la vérité. Je ne peux pas faire une philosophie à partir de l'opinion des autres. C'est pour ça que l'histoire de la philosophie, si intéressante qu'elle soit, n'est pas la source de la philosophie. Je sais qu'en disant ça, on se met à dos pas mal de gens, n'est-ce pas ? Parce qu'au fond, pour beaucoup, la philosophie, c'est l'histoire de la philosophie. Mais alors, au bout d'un certain temps, ils ne cherchent plus la vérité. Ils cherchent uniquement à regarder les opinions. Je dois me servir de l'opinion des autres pour essayer de découvrir la vérité. Et ma philosophie commence au moment où je quitte l'opinion des autres. Et encore une fois, tous les philosophes sont pour moi des témoins et donc me donnent des opinions. Même saint Thomas, même Aristote. Si je me contente uniquement d'exposer ce qu'Aristote a dit, je ne suis pas philosophe. J'expose l'opinion d'un grand philosophe. Si je me contente d'exposer la pensée de saint Thomas, je ne suis pas philosophe. Je reste dans l'opinion. Oui. Parce que ce que saint Thomas a dit, si je le répète, ben je répète ce qu'il a dit. C'est une opinion. Ça s'appuie sur une grande autorité, mais ça reste une opinion. C'est pour ça que saint Thomas, à la suite d'Aristote, a cette phrase si forte en philosophie, l'autorité est la dernière des raisons. Très très important de voir ça. En philosophie, l'opinion est la dernière des raisons. Et ça, saint Thomas le dit explicitement. Et Aristote l'avait dit avant lui. Et là, il répète la pensée d'Aristote. Mais pour bien vous comprendre, justement, que la philosophie, ce n'est pas... voyez, regardez l'opinion des autres. Voyez, c'est là où on voit la différence entre faire une thèse de philosophie et être philosophe. Faire une thèse de philosophie, c'est nécessairement s'appuyer sur tel ou tel auteur philosophique, tel ou tel philosophe, et exposer sa pensée. On ne peut pas faire autrement. On ne va pas vous demander de faire une thèse de philosophie, d'exposer votre philosophie. C'est impossible. Vous serez beaucoup trop critiqué. Et donc, il faut toujours prendre un auteur philosophique. Et on fait une thèse, mais on sait qu'on fait une thèse. Et on sait que ce n'est pas encore la philosophie. Ce qui est toujours terrible, parce qu'alors vous jugez des philosophes en fonction de leur thèse, et donc non pas en fonction de leur caractère philosophique. Mais ça, c'est comme ça. Ça fait partie des mœurs. Ce serait très difficile, du reste, d'essayer. Mais quelquefois, on pourrait demander à quelqu'un d'écrire sa pensée sur un sujet en 10 pages qui dirait beaucoup plus qu'une grosse thèse scientifique et qui nous donnerait uniquement l'opinion. Donc, il faut bien saisir la topique des opinions et puis l'expérience qui est la source principale et première, et non pas l'opinion. Vous comprenez que si je mets cette expérience comme source principale, ceci n'empêche pas que la source seconde soit les opinions, que j'ai aussi l'expérience interne qui est en moi et je peux très bien me servir de certaines inspirations. Il n'est pas exclu que le philosophe soit inspiré. Il n'est pas exclu. Mais le philosophe doit reconnaître ce qui est de l'ordre de l'inspiration, ce qui est de l'ordre de l'expérience interne, ce qui est de l'ordre de l'expérience externe. Et il revient toujours à l'expérience externe au plan fondement dernier. Il ne peut pas s'appuyer sur l'inspiration. Vous allez me dire pourquoi, c'est quand beaucoup mieux. Parce qu'il ne peut jamais savoir d'une façon absolue d'où vient cette inspiration, au plan philosophique. D'où vient cette inspiration? C'est encore vrai au niveau mystique, mais c'est un vrai au niveau philosophique. On ne peut jamais savoir d'une façon absolue. Est-ce que cette inspiration vient directement de Dieu? Est-ce que cette inspiration vient des muses? Est-ce que cette inspiration vient de Diotime? Est-ce que cette inspiration vient du daimon intérieur? Très difficile. Et puis cette inspiration est toujours une chose tout à fait personnelle. Alors ça m'éveille, c'est très important pour m'éveiller, pour me maintenir éveillé, mais je ne peux pas la communiquer. Or, le philosophe doit essayer de comprendre ce que c'est que l'homme pour éduquer l'homme. Alors là, c'est aussi très important. Je crois que la philosophie implique toujours ce souci de communication aux autres. Si j'étudie ce que c'est que l'homme, c'est pour permettre à l'homme d'être plus homme. Et donc, il y a toujours un souci de communication. Ça fait partie d'une dimension essentielle de la philosophie. La philosophie ne se termine pas seulement à la contemplation. Elle implique la paideia. Elle implique la communication. Et ce qui montre le souci d'avoir une pensée qui puisse se communiquer. Et pour pouvoir se communiquer, elle doit comprendre sur quoi elle se fonde. Bon. Alors, c'est à partir de là que nous pouvons comprendre que notre effort au plan philosophique doit être toujours de revenir à l'expérience en nous servant de l'opinion des autres, en nous servant de l'expérience au sens externe, en nous servant de l'expérience interne, tout le point de vue affectif, qui est très important, le thumos, l'amour que nous devons avoir pour la recherche de la vérité, et puis aussi l'inspiration si nous en avons, ce qui n'est pas mauvais. Les inspirations, il faut les maintenir, il ne faut pas les rejeter trop vite. Alors à partir de là, nous allons essayer de comprendre, j'irai très vite, puisque ça c'est du déjà vu pour beaucoup d'entre vous, mais il est toujours bon de revenir à nos expériences, pas seulement pour décrire les expériences. C'est là où il faut bien saisir. Si j'ai une méthode d'ordre purement artistique, je décris. Le poète décrit. Le mystique décrit. Le philosophe fait quelque chose de plus, il analyse. Et il analyse pour mieux communiquer et mieux enseigner. Et il analyse pour saisir avec plus de précision. Parce que s'il ne fait que décrire, il ne communique que sa description. Tandis que s'il analyse, il peut conduire lui-même vers quelque chose de plus. C'est par l'analyse que nous découvrons autre chose que l'expérience immédiate. Alors demain, nous essaierons de voir comment l'expérience conduit à l'analyse et comment l'analyse permet de revenir à la réalité. Mais nous revenons toujours à la réalité. Et ça, il faut le saisir, c'est la démarche propre du philosophe. Quelle est la démarche propre du philosophe? L'audos. Découvrir l'audos du philosophe, la voie du philosophe. Comment le philosophe a un certain itinéraire, un certain cheminement. Il doit être attentif à cela. Il sait qu'il y a des points qui sont particulièrement délicats et particulièrement difficiles. Et il doit essayer de comprendre quel est ce cheminement. Alors, nous verrons les différents niveaux de ce cheminement pour situer exactement le cheminement de la philosophie première.